en titre de ce 29 octobre. Les électeurs au Queensland iront voter pour un nouveau gouvernement le 25 novembre prochain. Un ancien politicien du Parti libéral de l'Australie-Occidentale défiera le vice-premier ministre Barnaby Joyce à l'élection partielle du 2 décembre prochain dans la circonscription de New England en Nouvelle-Galles du Sud. Et puis en Somalie, deux bombes dans une voiture piégée font plusieurs morts et plusieurs blessés. Le Queensland ira voter le 25 novembre prochain pour élire un nouveau gouvernement. La chef du Queensland, Anastasia Palaszczuk, a rendu visite au gouverneur général par intérim pour obtenir le feu vert pour ses élections. Les promesses électorales ont commencé déjà avec le Labour qui promet le recrutement de 400 nouveaux policiers et de 24 responsables pour gérer la crise de violence conjugale au Queensland. Écoutez le ministre de la Police, Mark Ryan.
It is good news for Queensland. It will ensure that our Queensland Police Service continues to be a world-class policing service.
Le ministre de la Police au Queensland, la sénatrice Sarah Hanson-Young, des Verts, concède que son parti doit revoir le procès de recrutement de ses candidats après l'inéligibilité de deux de ses sénateurs de siéger au Parlement fédéral, selon l'article 44 de la Constitution et la décision de la Haute Cour vendredi dernier de les renvoyer. Mais selon Hanson-Young, qui était sur l'ABC ce matin, la coalition gouvernementale a été plus irresponsable dans cette affaire de parlementaires de double nationalité siégeant au Parlement.
Of course, it was Scott and Larissa who made the right decision to cop it on the chin right from the word go when they realised. You compare that to the absolute arrogance from Barnaby Joyce and Fiona Nash and the Nationals. And not only were they incompetent in their processes, but they then were prepared to sit in the Parliament, take a paycheck, have run their offices, make decisions, and show absolute arrogance to the Australian people, only then to be found to be ineligible and to have broken the law.
La sénatrice Sarah Hanson-Young, Tony Burke, porte-parole du Parti travailliste, déclare que son parti va poursuivre son agenda au Parlement, alors que le vice-premier ministre Barnaby Joyce mène une campagne pour se faire réélire dans sa circonscription en Nouvelle-Galles du Sud. Le gouvernement peut compter sur 75 voix sur les 149 députés de la Chambre basse. On écoute Tony Burke.
The vulnerability of the government is hardly temporary. I've heard people say, oh, they've lost their working majority. Their majority hasn't been working for them the whole term. It was only day three before they lost the numbers on the floor, and a few weeks after that, one of the ones who'd gone home early, Michael Keenan, was the minister at the table when the government voted to condemn itself accidentally. So they've hardly had a working majority anyway. But what we will do is exactly what we've done the whole term, which is to pursue our agenda.
Tony Burke, porte-parole du Labour. Le procureur général George Brandis déclare qu'il n'y a aucune raison de mener une audite des membres du Parlement pour savoir s'ils ont une double nationalité ou non. George Brandis était sur Sky News ce matin.
Well, I've no reason to believe that anyone is.
Don't we need an audit though now, Senator Brandis?
Nobody's pointed to any evidence whatsoever, and it's not as if, by the way, look, this hasn't been canvassed minutely, with minute scrutiny by the media and indeed by the Labor Party and as well as third party groups over the last two or three months since Senator Canavan's deputy first emerged, and nobody has found anything to suggest that any coalition member or senator has a problem.
George Brandis, un ancien du Parti libéral de l'Australie-Occidentale, Ian Britsa, a décidé de se présenter à l'élection partielle de la circonscription de New England contre Barnaby Joyce le 2 décembre prochain. Il a été député de la circonscription de Morley en Australie de l'Ouest pendant 8 ans et a perdu son siège aux élections de mars dernier. Il se présente pour le Australian Country Party, déclarant qu'il a vécu 25 ans en Nouvelle-Galles du Sud.
Even though I lived in New South Wales for 25 years, I never lived in New England. And that's a fair question. However, they are conservative. I am unashamedly conservative, and I can uphold conservative principles, but I need to have a people who believe in that.
Ian Bridser qui se présente contre Barnaby Joyce. Le ministre des Anciens Combattants, Dan Tehan, défend la visite du Premier ministre Malcolm Turnbull en Israël, une visite qu'il a dû raccourcir de toute façon après la décision de la Haute Cour vendredi sur le sort des députés et sénateurs qui avaient la double nationalité et qui siégeaient au Parlement fédéral. 5 des 7 d'entre eux sont inéligibles d'être au Parlement, comme vous le savez. Malcolm Turnbull a dû annuler quelques réunions en Israël. Il aura une rencontre avec le Premier ministre israélien de toute façon. Le ministre Dan Tehan déclare que souvent il y a des délais dans les visites officielles à l'étranger.
As a former diplomat, I can tell you that this is not uncommon. As a matter of fact, the Israelis have done the same to us on quite a few occasions.
Le ministre des Anciens Combattants. Au moins 18 morts et plusieurs blessés en Somalie après une nouvelle attaque à la voiture piégée et contre un hôtel dans la capitale. Le groupe extrémiste Al-Shabaab a revendiqué les attentats. 2 semaines de cela, une attaque a fait au moins 350 morts. Reportage Florence Maurice pour Radio France Internationale.
Quelques minutes seulement ont séparé les deux explosions. La première à l'entrée de l'hôtel Nassa à Blod, à environ 600 mètres du palais présidentiel, dans une voiture qui s'est précipitée contre le bâtiment. La seconde à un carrefour non loin de là, selon la police, près des anciens locaux du Parlement. Des coups de feu ont ensuite été entendus, selon des témoins, mais en fin d'après-midi, le secteur était encore bouclé par les forces de sécurité. Difficile donc de dire si les assaillants ont pu entrer dans l'hôtel. C'est en tout cas ainsi qu'opèrent habituellement les chebabs, voitures piégées à l'extérieur pour permettre à un commando d'entrer à l'intérieur afin de faire un maximum de victimes. C'est aussi ce qu'a assuré le porte-parole des chebabs dans une courte déclaration à la radio Al-Andalus, outil de propagande d'Al-Qaïda auquel les chebabs sont affiliés. Il y a 15 jours, l'attentat le plus meurtrier de l'histoire du pays, lui, n'avait pas été revendiqué, mais les autorités l'avaient déjà attribué au groupe islamiste somalien.
Florence Maurice pour RFI. Le président déchu de la Catalogne, Charles Puigdemont, appelle à une opposition démocratique contre le gouvernement central de Madrid qui a pris contrôle de la région après sa déclaration d'indépendance. Laetitia Farine pour RFI nous explique la situation.
Dans sa déclaration, Carles Puigdemont a demandé de la patience, de la persévérance et de la perspective aux Catalans pour défendre les victoires conquises jusqu'à aujourd'hui. Il leur a également demandé de continuer à s'opposer démocratiquement à l'application de l'article 155 de la Constitution, tout en assurant que son gouvernement continuerait, lui, d'œuvrer à la construction d'un pays libre. Dans cette énième prise de parole symbolique, Carles Puigdemont a évité de s'exprimer sur sa destitution et celle de ses conseillers, tout comme sur la convocation d'élections prévues par Mariano Rajoy pour le 21 décembre. La déclaration diffusée à 14h30 par les médias pro-indépendantistes TV3 et Radio Catalunya possédait un décorum où rien n'avait été laissé au hasard. En effet, dans le dos de Carles Puigdemont, seulement 2 drapeaux étaient visibles, celui de la Catalogne et celui de l'Europe, le drapeau de l'Espagne ayant été relégué au placard hier. Le président destitué a parlé depuis le siège de la Generalitat de Gérone, à une centaine de kilomètres au nord-est de Barcelone, une ville où il réside normalement et où il a été reçu en héros samedi après-midi, prétend au jeu des selfies avec des indépendantistes sous le charme.
Laetitia Farine pour RFI. Aux États-Unis maintenant, avec les premières mises en accusation dans l'enquête sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle de l'année dernière. Analyse de Corentin Sella, spécialiste des États-Unis.
C'est un moment très important et il fallait hier soir voir vraiment CNN, par exemple, passer en édition spéciale sur ce sujet et les réactions sur les réseaux sociaux pour mesurer l'impact. Pourquoi ? Parce que, contrairement à ce qu'a affirmé Trump depuis le début, ses premières poursuites, ses premières mises en accusation qui sont annoncées concernant l'enquête Mueller, prouve que l'on n'est pas dans un procès politique, dans une chasse aux sorcières politiques, mais bien dans une enquête judiciaire qui avance, qui a trouvé des choses et qui a trouvé suffisamment d'éléments pour avoir des mises en accusation acceptées, approuvées par un grand jury. Donc c'est un moment très important et qui, en quelque sorte, attaque la défense de Donald Trump sur cette collusion avec la Russie.
Corentin Sellin, spécialiste des États-Unis. Découverte en Syrie et en Irak d'armes chimiques utilisées par le groupe djihadiste Daesh. Les armes ont été détruites par la coalition internationale. Reportage Paul Halifé pour RFI.
Selon le colonel Ryan Dillon, cité par l'agence russe Sputnik, les armes chimiques du groupe État islamique saisies en Syrie et en Irak par les forces de la coalition internationale comprenaient du matériel industriel, des obus de mortier et des grenades propulsées à l'aide de roquettes. L'officier américain n'a pas précisé la nature des agents chimiques découverts, mais a indiqué que le matériel avait été détruit. Le colonel Dillon a ajouté que les troupes de la coalition ont saisi des stocks de matériaux largement industriels qui pouvaient être combinés ensemble à des fins chimiques. Des sources proches de Damas ont pour leur part indiqué que les troupes gouvernementales ont découvert dans des dépôts appartenant aux djihadistes dans les provinces de Hama, de Homs et de Deir ez-Zor d'importantes quantités de produits entrant dans la composition d'agents chimiques utilisés à des fins militaires ainsi que des manuels pour leur fabrication. Le groupe État islamique a utilisé à plusieurs reprises, aussi bien en Syrie qu'en Irak, des obus remplis de chlore et d'autres produits toxiques qui ont fait de nombreuses victimes parmi les militaires et les civils.
Paul Halifé pour RFI. La mise en garde du secrétaire américain à la défense, James Mattis, contre la Corée du Nord si elle utilisait l'arme nucléaire. James Mattis s'est rendu hier dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. Yelena Temic, RFI.
La visite de James Mattis en Corée du Sud s'inscrit dans un contexte de tensions très élevées dans la péninsule depuis que le régime de Pyongyang a effectué son sixième essai nucléaire et procédé à plusieurs tests de missiles balistiques théoriquement capables d'atteindre le territoire continental des États-Unis, d'où les nouveaux avertissements du secrétaire américain à la défense, James Mattis.
Les États-Unis n'acceptent pas une Corée du Nord nucléaire. La diplomatie reste notre mode d'action préféré, mais comme je l'ai souvent répété dans ce genre de situation, nos diplomates sont plus efficaces lorsqu'ils sont soutenus par une force militaire crédible. Ne vous y trompez pas, toute attaque contre les États-Unis ou contre nos alliés sera vaincue. Tout usage d'armes nucléaires par le Nord suscitera une réaction militaire massive, efficace et écrasante. Si la Corée du Nord insiste sur le chemin des missiles balistiques et de la bombe atomique, les effets seront contre-productifs. La République populaire démocratique de Corée va diminuer elle-même son niveau de sécurité.
Les menaces nucléaires du Nord ont suscité des appels de certains députés à Séoul en faveur du déploiement d'armes nucléaires tactiques américaines au Sud, mais le ministre de la Défense sud-coréen, Song Yong-mo, a écarté cette possibilité, affirmant que son pays était capable de répondre à de potentielles attaques nucléaires de Pyongyang.
Yelena Tomic pour RFI. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 21 degrés, Adélaïde 27, Melbourne 27 également, Hobart 25, Canberra 26, Sydney 29, Brisbane 32, Cairns 31 et Darwin 34. Et puis à Alice Springs, maximal de 38 degrés. Un rappel des grands titres de ce 29 octobre. Les électeurs au Queensland iront voter pour un nouveau gouvernement le 25 novembre prochain. Un ancien politicien du Parti libéral de l'Australie-Occidentale défiera le vice-premier ministre Barnaby Joyce à l'élection partielle du 2 décembre prochain. Fin du journal. Merci de votre fidélité.
Vous aimez le programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench